France Culture, il est 18h. Le journal est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La confusion ce soir au Liban. Les autorités du pays commencent à perdre patience une semaine après la démission du Premier ministre. Des soupçons pèsent sur le rôle de Riyad et le Hezbollah parle même d'une éventuelle détention de Saad Hariri en Arabie Saoudite. Nous ferons le point avec notre correspondante Laure Stéphane au début de ce journal. Près de 400 000 personnes abandonnées en Syrie dans les enclaves rebelles de la Routa près de Damas. Aucune aide humanitaire ne passe. L'association Syrian Charity dénonce l'inaction de la communauté internationale. Nous entendrons son président. À Bruxelles, Michel Barnier hausse le ton sur la facture du Brexit. Le négociateur des Européens donne 2 semaines à Londres pour débloquer les discussions, va nous dire Pierre Benazé. En France, des prières de rue tous les vendredis à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, depuis mars dernier. Mais aujourd'hui, une centaine d'élus de droite ont tenté de les empêcher. Derrière ces prières, la revendication d'un lieu de culte. Reportage à suivre d'Antoine Maret. Et puis l'enquête du journal de 18h. Retour sur une semaine de révélation des Paradise Papers et focus notamment sur l'Union européenne. Quelles leçons à tirer ? Explication d'Abdellah El-Idrissi à la fin de ce journal. Au Liban, quasiment une semaine après la démission du Premier ministre Saad Hariri, c'est toujours la confusion ce soir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fait part de sa grande inquiétude. Il multiplie actuellement les contacts pour éviter, je cite, une escalade aux conséquences tragiques. Saad Hariri se trouve toujours en Arabie Saoudite, pays dans lequel il a annoncé son départ de la tête du gouvernement samedi dernier. Bonsoir Laure Stéphane.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante en direct de Beyrouth. Dans le pays, les appels en faveur du retour de Saad Hariri se multiplient et les autorités commencent aussi à s'agacer.
Effectivement, Beyrouth réagit. Le président Michel Aoun a reçu aujourd'hui l'émissaire saoudien au Liban. Il a critiqué les conditions de la démission de Saad Hariri et réclamé son retour. Un retour également demandé par d'autres dirigeants. Il faut dire que le flou reste total près d'une semaine après cette décision annoncée depuis Riyad. L'entourage de Saad Hariri à Beyrouth reste très discret, affirme ne rien savoir d'un éventuel retour. Les spéculations vont bon train dans le pays. Certains responsables affirment que le chef du gouvernement démissionnaire est assigné à résidence par Riyad. Ici, on a peu de doutes, son acte de résignation a été ordonné par l'Arabie Saoudite qui cherche à mettre la pression sur l'Iran via le Liban et le Hezbollah. Cette annonce a en effet fait voler l'entente fragile qui existait ces derniers mois entre forces pro-iraniennes et pro-saoudiennes au pays du Cèdre. Cet après-midi, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, est intervenu pour la 2e fois en quelques jours sur ce dossier. Il a appelé au calme sur la scène intérieure, à l'unité nationale, mais il s'est aussi montré très offensif contre l'Arabie Saoudite. Il a critiqué avec virulence la guerre menée par Riyad au Yémen. Pour rappel, le Hezbollah est lui-même engagé aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie. C'est un terrain de confrontation où Riyad a perdu la main. Et puis surtout, Hassan Nasrallah a accusé les Saoudiens d'avoir demandé aux Israéliens de bombarder le Liban. Le chef du Hezbollah a toutefois écarté le risque d'un conflit proche.
Merci Laure Stéphane pour vos explications en direct de Beyrouth. En Syrie, va-t-on revivre les jours les plus sombres de la guerre civile ? Près de 400 000 personnes sont prises au piège dans les enclaves rebelles de la région de la Routa, près de Damas. Selon le conseiller spécial de l'ONU sur la Syrie, Yann Hegland, ces civils sont menacés d'une totale catastrophe. L'aide humanitaire ne peut pas passer car le régime de Damas impose un siège impitoyable aux rebelles. Situation complètement absurde, dénonce Mohamed Al-Ouahabi. Il est le président et le cofondateur de l'ONG Syrian Charity.
La Routa orientale, donc, c'est une zone dans la banlieue est de Damas qui regroupe plus de 360 000 habitants et qui est bombardée depuis maintenant plus de 5 ans. Et elle est aussi sous siège, sous un embargo quasiment total depuis donc ces 5 ans. Elle devait être prise en compte dans la zone de désescalade négociée, donc notamment entre les Turcs et les Russes. Malheureusement, il n'en est rien et l'étau s'est resserré. On a vu apparaître notamment des nourrissons qui ont perdu la vie, à l'image d'un bébé de 1 mois qui s'appelle Samah Dovda, qui a perdu la vie il y a maintenant 3 semaines environ. Suite à un défaut de nutrition, il n'y avait pas de lait pour elle et elle a malheureusement succombé donc à la famine. Jamais les témoignages de nos équipes sur place, des équipes de Syria Charity, eh bien nous n'avons jamais eu de tels témoignages de tous nos membres, ceux qui étaient même dans Alep Est à l'époque, nous n'avons jamais reçu de tels témoignages.
Qu'est-ce que vous disent les témoins ?
Les témoins nous racontent une vie avec des bombardements qui sont incessants.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Imaginez-vous vivre avec environ 50 dollars par famille et par mois, là où le kilo de riz atteint les 16 euros. Donc pour acheter un kilo de riz, c'est 16 euros. Donc votre salaire vous suffit pour à peine 2 kilos de riz par mois pour une famille d'environ 5 personnes. En plus de ça, il faut compter sur des bombardements avec type d'armes autorisées comme interdites, des bombes à fragmentation, des bombes au phosphore, l'utilisation d'armes chimiques qui a duré, qui a été réemployée, également des bombes anti-bunker. Donc toutes les formes de bombes ont été utilisées dans cette zone.
Des propos recueillis par Valérie Crova. C'était il y a un mois, le prix Nobel de la paix allait à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Placée dans cette dynamique, le pape François a organisé aujourd'hui un colloque au Vatican sur le désarmement nucléaire. 11 prix Nobel de la paix, des représentants de l'ONU et de l'OTAN. Cette réunion avait été prévue avant le regain de tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Elle permet aujourd'hui au pape François de faire plusieurs mises en garde, Mathilde Imberti.
Ce colloque international était prévu bien avant la crise ouverte entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et il ne s'agit pas pour le Vatican de procéder à une médiation, mais bien de rappeler l'objectif que les nations devraient poursuivre, selon le pape François, le désarmement. L'arme nucléaire crée un faux sentiment de sécurité, selon lui, et il craint qu'elle puisse tomber aux mains des terroristes.
Les instruments législatifs internationaux n'ont pas empêché de nouveaux États de rejoindre ceux qui possèdent déjà des armes nucléaires. Les scénarios qui en découlent sont profondément angoissants au vu des défis de la géopolitique comme le terrorisme ou la guerre asymétrique.
Le pape s'exprimait devant un parterre de 11 prix Nobel de la paix, de rescapés d'Hiroshima et Nagasaki. Peu d'États, en tout cas pas la France, sceptiques sur ce genre d'initiative. Cela n'a pas échappé au Vatican. Le père Bruno Marie Dufay est secrétaire du dicastère pour le développement humain qui a organisé ce colloque.
Il faut oser dire que nous ne sommes pas enchaînés à l'arme nucléaire et de manière générale à la production des armes d'ailleurs. C'est aussi la désescalade du commerce international des armes qui n'a jamais aussi bien marché. Et en particulier pour un pays comme la France. C'est assez impressionnant quand on regarde ça de près. Mais ça n'est pas parce que ça existe que pour autant c'est moral et c'est acceptable. Donc sur ce point, la liberté de l'Église est une excellente chose. Et il faut la saluer et non seulement la saluer mais l'encourager.
Les prix Nobel présents à Rome, dont l'Égyptien El Baradei et le Bengalais Younous, ont remercié le pape François pour son engagement et se déclarent prêts à le soutenir dans ses prochaines initiatives.
Correspondance à Rome, signée Mathilde Imberti. Johann Barbero, l'ancien directeur d'Alliance française en fuite après avoir été condamné par la justice russe, demande à être blanchi par Moscou et indemnisé par le Quai d'Orsay. Il s'est exprimé à Nantes cet après-midi. Johann Barbero qui accuse les autorités françaises de n'avoir pas su le protéger. À Bruxelles, comme à la boxe, les négociations du Brexit sont organisées en reprise et la sixième de ces reprises vient de se clore à Bruxelles. Le coup de gong final sonné à la mi-journée n'a annoncé aucun résultat tangible et les négociations prennent du retard, Pierre Benazé.
Le prochain sommet européen en décembre est censé décider s'il est possible d'ouvrir des négociations parallèles sur la future relation euro-britannique post-Brexit. Le Royaume-Uni réclame à cor et à cri l'ouverture de cette deuxième phase, mais les Européens veulent toujours des progrès substantiels sur l'avenir de la frontière irlandaise, sur les droits des futurs expatriés et surtout sur la facture finale. Et Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, demande aux Britanniques des engagements financiers tangibles d'ici deux semaines s'ils veulent espérer ouvrir la deuxième phase des négociations avant l'an prochain.
Il s'agit d'atteindre ce niveau de progrès suffisant, des progrès sincères et réels. Et si ce n'est pas le cas, nous continuerons. Nous retarderons d'autant l'ouverture de la discussion sur le futur, dont fait partie et la période de transition qui commencerait le 30 mars 2019, après la sortie effective du Royaume-Uni des institutions européennes, et évidemment la relation future et le partenariat que nous souhaitons construire dans la durée avec le Royaume-Uni.
Pour l'instant, l'ouverture de cette deuxième phase paraît compromise au vu de la lenteur des débats, puisque les négociateurs en sont encore à devoir examiner les promesses financières faites à Florence par Theresa May il y a déjà un mois et demi.
Le compte-rendu à Bruxelles de Pierre Benazé. En France, 3 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement au lycée de Blagnac, près de Toulouse. Elles ont été fauchées par un véhicule cet après-midi vers 16h. Le conducteur a été interpellé. Il est connu pour des faits de droit commun, mais ne serait pas fiché S, un conducteur qui affirme avoir délibérément commis ce geste. Nous y reviendrons avec plus de détails dans le journal de 22h. Et puis, manifestation très tendue cet après-midi à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Une centaine d'élus ont protesté contre les prières de rue qui ont eu lieu chaque vendredi depuis le mois de mars dernier. Ces musulmans qui pratiquent leur culte devant la mairie protestent contre la fermeture de leur salle de prière. C'est un reportage d'Antoine Marette.
La scène est surréaliste. D'un côté, une centaine d'élus portant l'écharpe tricolore qui entonne la Marseillaise. De l'autre, à quelques mètres, des musulmans qui prient en pleine rue. Côté élus, des maires, des parlementaires, des conseillers municipaux et régionaux. Une grande partie est membre de LR, l'autre de l'UDI et du MoDem, et certains même du Front National. Parmi eux, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse.
Il ne s'agit pas de stigmatiser quiconque, il s'agit juste de dire, à un moment donné, dans la rue, c'est un espace public, c'est la République, et on n'est pas impuissant face à cette situation. L'État doit agir, et il doit aider le maire de Clichy, qui est tout seul, et qui essaye de trouver des solutions tout seul, mais qui n'y arrive pas.
Le maire de Clichy, c'est Rémi Museau. Il a fait basculer la ville à droite pour la première fois de son histoire en 2015. C'est lui qui est à l'initiative de cette manifestation.
Aujourd'hui, je suis désolé, le ministre de l'Intérieur ne fait pas son travail. Et moi, aujourd'hui, je dois assurer la tranquillité et la liberté des gens dans ma ville. La République est bafouée, et bien elle ne sera plus bafouée maintenant, j'en suis persuadé.
Les slogans fusent d'un côté, les prières répondent de l'autre. Des élus se rapprochent de la centaine de musulmans. Un moment, le maire tente même de forcer le cordon de gendarmes mobiles pour aller au contact de ceux qu'il dénonce, sans succès. En face, les fidèles finissent par reculer de quelques mètres, mais la prière continue. Elle est dirigée par l'imam Laoussi Nikige.
Je trouve que c'est une provocation parce que pour faire une manifestation au même endroit où on fait la prière, et à la même heure, je pense qu'il y a quelque chose. Parce que nous, on n'est pas là pour provoquer quelque chose soit. Ou quoi que ce soit, notre revendication, elle est claire, c'est d'avoir un lieu digne pour les Clichois, comme à Gennevilliers, à Asnières et à toutes les autres villes communes.
Au mois de mars, le maire de Clichy a récupéré les locaux loués à l'association musulmane pour en faire une médiathèque, tout en inaugurant au même moment une mosquée au nord de la ville. Mais cette association juge le bâtiment excentré et trop exigu.
Reportage signé Antoine Marette. Le feuilleton se poursuit autour de la taxe sur les dividendes, taxe instaurée sous la présidence Hollande et censurée le mois dernier par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a trouvé dans l'urgence un dispositif de compensation pour rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises lésées, mais ce texte a du mal à passer. Les sénateurs et les députés ont d'ailleurs échoué cet après-midi à trouver un accord sur le projet de loi rectificative qui crée une surtaxe pour les grandes sociétés. Par ailleurs, aujourd'hui, l'Inspection générale des finances devait rendre un rapport sur les responsabilités de ce dossier politiquement sensible. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
On apprend finalement que l'IGS rendra son rapport lundi.
Oui, et ça pose question, pourquoi était-il nécessaire de reporter la publication de ce rapport ? Doit-il être relu avant validation ? Il faut rappeler qu'il a été commandé dans la précipitation par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et ça sans que le président de la République soit préalablement mis au courant. Rappelez aussi que l'objet de ce rapport est de déterminer les responsabilités dans la mise en œuvre de cette taxe, qui du fait de son invalidation va coûter 10 milliards d'euros à la France, et que quand elle a été mise en œuvre en 2012, c'est l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, qui était le conseiller de François Hollande pour les affaires économiques et financières. Du coup, Bruno Le Maire a potentiellement placé le chef de l'État dans la position de l'arroseur arrosé. Parce que quoi que contienne ce rapport, qu'il mette en exergue ou qu'il minimise la responsabilité d'Emmanuel Macron, ça va générer des doutes et des suspicions. Du coup, on peut là encore s'interroger sur le moment finalement choisi pour le rendre public. Ce sera lundi matin, 8h45, lundi 13 novembre, jour de commémoration des attentats de 2015. À ce moment-là, l'espace médiatique sera saturé par ces commémorations qui, pour le coup, vont opportunément jouer le rôle de paravent médiatique. Il en sera beaucoup moins question. Quand il avait lancé sa campagne pour la présidentielle, Emmanuel Macron avait théorisé qu'il entendait rester le maître des horloges il semble aujourd'hui nous montrer qu'il n'a pas renoncé à cette ambition.
Merci Stéphane Robert pour votre analyse. Le recueillement cet après-midi dans le massif des Vosges, Emmanuel Macron et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier se sont recueillis donc sur la montagne mangeuse d'hommes, comme les poilus l'ont surnommé en 1915. Cette année-là, cet éperon rocheux a changé 8 fois de main au cours de combats acharnés qui ont fait 25 000 morts. Les deux chefs d'État ont également inauguré l'historial franco-allemand qui abritera les restes de 12 000 soldats inconnus. La Cour de cassation déboute les deux journalistes français, Catherine Gracier et Éric Laurent. La plus haute juridiction française valide l'enregistrement clandestin à l'origine de leur mise en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu soutirer 3 millions d'euros à Mohamed VI, le roi du Maroc, en 2015, en échange de l'abandon d'un livre censé contenir des révélations gênantes pour Rabat. Les deux journalistes comptent saisir la Cour européenne des droits de l'homme. L'avocat de Mohamed VI salue au contraire une très grande victoire. C'est la fin aujourd'hui et même en ce moment même d'une semaine de révélation des Paradise Papers, cette enquête de journalistes internationaux sur les montages financiers d'optimisation fiscale pratiqués par des multinationales mais aussi des grandes fortunes. Enquête menée par la cellule investigation de Radio France en partenariat avec l'ICIJ, le consortium international de journalistes et le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Ce soir, nous revenons plus spécifiquement sur l'évasion fiscale au sein même de l'Union européenne. Bonsoir Adela Khalidri. Ici.
Bonsoir.
Vous avez participé au Paradise Papers pour la rédaction de France Culture. L'un des enseignements à tirer, c'est que l'Europe n'a finalement pas de leçon à donner en termes d'évasion fiscale.
C'est vrai que les Paradise Papers nous permettent de voir que pour les principaux leviers de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale, eh bien des pays et des territoires européens sont concernés à chaque fois. Prenons le cas des riches personnalités épinglées cette semaine. On a vu que l'île de Malte permettait aux propriétaires de yachts de payer une TVA de 5,4% seulement et d'économiser ainsi des millions d'euros. Pour les détenteurs de jets privés, c'est l'île de Man, cette dépendance britannique au sud de l'Angleterre, qui offre la possibilité de ne pas payer du tout de TVA en se cachant derrière une société écran. Faille dont usent et abusent certains propriétaires d'avions, comme l'explique Manon Aubry de l'ONG Oxfam.
La subtilité, c'est qu'à l'île de Man, contrairement à d'autres pays européens, il n'y a pas ce qu'on appelle de registre des bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de registre à travers lequel on peut vérifier l'identité de ceux qui détiennent des sociétés dans le pays. Donc, vous avez, pour résumer, une société écran qui détient votre avion et on ne sait pas que vous vous cachez derrière cette société écran. Le subterfuge est assez facile. Le fisc français ne peut pas savoir que vous détenez cet avion.
Et cette semaine, on a aussi beaucoup parlé des lacs, des pratiques, des entreprises.
Oui, notamment l'ingénierie mise en œuvre pour exploiter au maximum les failles fiscales. Mais parfois, ce sont les pays qui attirent les multinationales avec une fiscalité faible, voire inexistante. L'exemple de l'entreprise américaine Nike a notamment permis de se rendre compte des pratiques des Pays-Bas. On a déjà beaucoup parlé de l'Irlande et du Luxembourg par le passé. Mais pour Gabriel Zucman, le rôle joué par les Pays-Bas est problématique.
Les Pays-Bas, c'est sans doute le paradis fiscal numéro 1 aujourd'hui pour ce qui concerne l'optimisation fiscale des multinationales. Les multinationales peuvent enregistrer des milliards et des milliards et des milliards d'euros aux Pays-Bas et payer zéro euro d'impôts aux Pays-Bas ou dans les autres pays. Et le problème, c'est que ces impôts qui sont collectés en Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg, c'est de l'argent qui est volé au trésor français, allemand, etc.
Alors les Paradise Papers ont bien mis en relief tous ces problèmes, mais on se pose maintenant la question des solutions.
Oui, Gabriel Zucman, qu'on vient d'entendre, propose pour les entreprises de les taxer à hauteur du bénéfice réalisé dans chaque pays. Exemple, si Nike fait 10% de ses ventes en France, l'entreprise paiera en France des impôts sur 10% de ses bénéfices. De son côté, la Commission européenne a ouvert une procédure concernant l'île de Man et l'île de Malte. Le régime fiscal des Pays-Bas est aussi dans le collimateur de Bruxelles. Mais il faudra aller beaucoup plus loin, selon Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE.
La fiscalité, elle n'est pas harmonisée à l'Union européenne. La fiscalité, elle est au cœur de la souveraineté. Chaque État est souverain. Alors, il y a un certain niveau de coordination. Il y a eu des grands progrès faits dans l'Union européenne au cours des dernières années avec des directives pour obliger l'échange automatique de renseignements bancaires. Mais l'harmonisation, elle n'est pas encore là.
Donc, la solution au sein de l'Union européenne, c'est une harmonisation.
La solution au sein de l'Union européenne, c'est de remettre les choses un peu à plat, de continuer les bons progrès qui ont été faits et qui sont en cours. Ça passe sans doute par de l'harmonisation et une réflexion un peu en profondeur que conduit en ce moment l'Union européenne. La Commission a sorti une communication récemment sur ces éléments.
Des choses sont donc faites sur le sujet. On verra si cette semaine de révélations avec les Paradise Papers vont accélérer le mouvement.
Merci Abdelhak El Idrissi. Votre éclairage sur les enseignements à tirer concernant les Paradise Papers au sein de l'Union européenne est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr ainsi que toutes les révélations de cette semaine. La météo de demain samedi, ciel couvert et pluvieux sur la majeure partie du pays, alternance de nuages et d'éclaircies au bord de la Méditerranée. Et les températures, il fera 6 à Strasbourg, 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à Bordeaux et jusqu'à 15 degrés à Perpignan. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun à la technique, c'était Élise Leu.